Merci. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va aborder une question universelle. Alors, en fait, chaque fois qu'on aborde la Bible, on aborde des questions universelles. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Moi, je ne peux pas m'empêcher de, je n'avais pas noté ça au départ, mais de penser à, alors on a les réseaux sociaux, on a tout un tas de choses, mais quand des gens qui sont en vacances à Dubaï voient des avions militaires passer, des missiles arriver, et ils sont en panique totale, ils disent, et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on a tous connu des moments où on se sent un peu au bout du rouleau, au bout de notre vie, face à des situations qui nous semblent impossibles. Peut-être est-ce que c'est l'annonce d'une maladie ou un accident grave, un mariage qui s'effondre, des relations qui se brisent entre membres d'une famille, un enfant, une accusation injuste de quelque chose qu'on n'a pas fait, ou peut-être même une confrontation avec nos propres erreurs passées. Peut-être que c'est simplement le poids de la vie, une montagne de dettes, un travail que l'on déteste. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et si ces exemples ne vous parlent pas directement, je suis sûr que vous avez les vôtres. Vos situations où vous êtes peut-être senti dépassé. Et on y fasse tous, à un moment donné ou à un autre, face à des circonstances pareilles. Et c'est de ce genre de situation qu'on va parler et aborder ce matin au travers d'un texte de l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Alors, c'est vrai que le livre des Chroniques, ce n'est pas forcément le livre qu'on aborde le plus facilement et avec le plus d'entrain. Déjà son nom, Chroniques. Oula. Et le premier livre des Chroniques démarre plutôt mal. Il y a 9 chapitres, qui ne sont pas courts, remplis de généalogies. Et puis, si vous lisez votre Bible dans l'ordre... dans laquelle elle a été éditée. Vous venez de lire 2 livres sur les rois, puis c'est les rois du Nord, les rois du Sud. On ne comprend pas toujours tout. Il y a des généalogies, de la politique, tout un tas de choses. Et on arrive sur Chronique et on dit c'est encore la même chose. Et pourtant, c'est un livre qui est riche et profond et qui montre comment Dieu réordonne des histoires brisées et bâtit quelque chose de nouveau à travers ceux qui sont disposés à se laisser utiliser. On y voit des bons rois qui prennent des décisions catastrophiques. On voit des mauvais rois qui se repentent et trouvent le pardon. Et ces hommes qui sont décrits dans ce deuxième livre des Chroniques ne sont pas des caricatures simplistes, utilisées uniquement pour dire « adorer Dieu c'est bien, adorer d'autres dieux c'est mal ». Ce sont des personnes réelles, avec leur complexité, leurs failles, qui connaissent des moments de grandeur et de faiblesse et qui doivent apprendre l'importance de l'humilité, de la sagesse, de l'obéissance et de la prière. Et le cœur de ce livre, qui est aussi le cœur de l'Évangile, et c'est le suivant. Si nous nous repentons, croyons et nous humilions devant Dieu, il nous sauvera dans sa grande miséricorde et dans sa grâce. Le roi dont on va écouter une partie de son histoire ce matin s'appelle Josaphat. Il est décrit comme un bon roi, à l'image de son ancêtre David. Et il se retrouve dans une situation impossible. Oh, sinon, on peut juste passer à la suivante. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites, c'est des habitants du pays d'Édom. On les voit bien sur la carte. En gros, 3 des plus grandes puissances proches de Juda se liguent ensemble, s'allient pour aller attaquer son royaume. Et en fait, ils sont aux portes de la capitale de Jérusalem. En Engedi à Jérusalem, a priori à vol d'oiseau, il y a à peu près une centaine de kilomètres. Le texte ne précise pas la raison exacte de cette attaque. Est-ce que c'est une conséquence des actions passées de Josaphat? Il s'était allié avec le roi d'Israël, le roi du Nord, pour attaquer d'autres pays. Est-ce que c'est une rétribution à ça? Est-ce que c'est simplement la peur des puissances environnantes de voir Juda grandir en puissance, en richesse, et dire ils prennent un peu trop de place, on va un peu réduire tout ça? Le texte ne le précise pas, mais en tout cas, le roi est surpris par la proximité et la rapidité à laquelle cette coalition est arrivée, alors même qu'il avait fortifié son pays. Comment est-ce que vous vous sentez quand il y a un danger imminent? Il n'est pas non plus écrit qu'il a pris courage, qu'il a levé son armée, il est parti au combat. Il a juste peur. Quand on rencontre une situation impossible, une nouvelle dramatique, comment est-ce qu'on réagit? Si on a peur, c'est normal. On est en panique, on appelle un ami, il y a Google, maintenant il y a ChatGPT ou d'autres agents IA, on s'effondre. Ou est-ce qu'on est plutôt du genre à chercher une solution tout de suite? Et puis le plan B, le plan C, le plan D, au cas où ça ne marche pas. Le texte nous dit que le roi, lui, décide de chercher Dieu. Son intelligence et sa volonté sont sollicitées pour faire taire la peur et rechercher Dieu. Le texte ne dit pas qu'il n'a plus peur. Il cherche Dieu malgré sa peur. Et son attitude, dans les premiers versets, on voit qu'elle est humble. Il entraîne tout le peuple avec lui. Il faut une sacrée dose d'humilité quand on est le premier personnage de l'État, d'assembler son peuple et dire ben, on va chercher Dieu parce que moi, je n'ai pas de solution. Qu'est-ce qu'on penserait de nos dirigeants si, face à une grande calamité, ils prendraient la parole et diraient eh, je ne sais pas quoi faire. On attend d'eux qu'ils nous donnent des solutions, qu'ils disent qu'ils y travaillent. Et on a eu l'exemple ces dernières années. Le roi recherche Dieu et amène son peuple avec lui. Il donne rendez-vous à tout le peuple au temple, pas dans son palais, pas sur la grande place de la capitale, pas dans une forteresse. Il leur donne rendez-vous au temple, car c'était là, au temple, que l'on venait pour rencontrer Dieu. Il proclame un jeûne. Le jeûne était une expression extérieure de la réalité intérieure d'un cœur brisé. C'était une réponse urgente de repentance et de profonde humilité. C'était la recherche de la délivrance auprès de Dieu, dans une situation désespérée au plus haut point. Et on ne voit pas d'orgueil chez ce roi. Pourtant, il y avait de quoi faire. Josaphat a régné d'une bonne manière selon Dieu. Il a combattu l'idolâtrie, allant même plus loin que son père avant lui, en détruisant les hauts lieux, les endroits où les gens venaient adorer d'autres dieux que l'Éternel. Il a enseigné le peuple en envoyant ses hauts fonctionnaires avec des lévites, des prêtres, pour instruire le peuple dans la loi et dans la parole de Dieu. Il a mis en place la justice dans son pays pour combattre la corruption, en nommant des juges de partout dans le pays. Je l'ai dit tout à l'heure, il était à la tête d'une armée de plus d'un million d'hommes. Il avait fortifié les villes du pays. Il avait des provisions en abondance. Et pourtant, il avait peur. Mais il n'avait pas d'orgueil pour partir au combat seul. Ceux qui pensent que la Bible est un ensemble de préceptes dénués de toute émotion se trompent. La Bible dépeint honnêtement les émotions humaines. Les hommes n'y sont pas décrits sous leurs meilleurs jours, mais avec leurs failles et leurs émotions de leur cœur qui sont exposées. Et Josaphat cherche Dieu avec ses émotions, avec sa peur, avec ses failles, avec humilité, laissant de côté tout orgueil personnel sur ses propres accomplissements. La Bible nous révèle qu'une autre personne, Jésus-Christ, a aussi été saisi de peur. Dans le jardin de Gethsémané, dans les moments précédant sa crucifixion, il dit à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Il est tellement angoissé que sa sueur, c'est des gouttes de sang. C'est de la peur, c'est de l'angoisse. Et son premier réflexe, c'est de passer du temps avec Dieu dans la prière. Il expose sa peur, tout en soumettant sa volonté à celle de Dieu. Mon Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais fais selon ta volonté. En Christ, nous avons un Sauveur qui sait ce que c'est que d'avoir peur face à une situation impossible. Et c'est d'autant plus que nous, d'autant plus ce que c'est qu'il peut nous écouter quand nous sommes envahis par cette émotion. Il peut me comprendre. Lui ne m'abandonnera pas. Jésus ne s'est pas appuyé sur ses propres forces ou sa qualité de Dieu pour se sortir de cette situation impossible. Il aurait pu, il était Dieu. Il aurait pu d'un claquement de doigts se sortir de cette situation, écraser tous ses ennemis. Il n'a pas fait, parce qu'il a soumis sa volonté à celle de Dieu. Qu'est-ce que ça fait pour nous? C'est que nous, 2000 ans après, on peut s'approcher de Dieu, non pas sur la base de nos propres mérites, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, mais sur la base des mérites de Jésus-Christ. Je peux et je veux accepter de faire sa volonté et non la mienne, parce que je lui fais vraiment confiance. Autre implication, Josaphat et le peuple s'approchent de Dieu en allant au temple, mais pour nous, c'est Dieu qui s'est approché de nous. Par Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de m'approcher physiquement ou venir dans les locaux de cette église ou d'une autre pour m'approcher de Dieu. C'est Dieu qui s'est approché de nous. Et si Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, alors il y a cette promesse qui est réalisée, c'est qu'il fait sa demeure en toi. Il habite en toi par son Saint-Esprit. Et dans ma détresse, face à mes situations impossibles, je veux, mais je peux, prier Dieu et lui demander son secours, parce que je sais qu'il me fortifiera. C'est avec cette attitude et cette disposition de cœur qu'on recherche Dieu, qu'on s'approche de lui. Et on va lire la prière de Josaphat, et en s'adressant avec cette attitude à Dieu, il va utiliser deux ressources qui sont aussi à notre disposition. Il va se rappeler qui Dieu est et ce qu'il a fait. Il va garder les yeux sur Dieu et non sur ses circonstances. On va continuer la lecture à partir du verset 6, toujours dans 2 Chroniques. Donc c'est le roi. Il pria ainsi. « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? » Ici, sont établis. Ils ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Eh bien maintenant, Voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Seir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée, notre Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Le roi s'adresse à Dieu sur la base de ce qu'il connaît de lui. Il a été enseigné et connaît les écrits bibliques qui sont à sa disposition. Il ne s'adresse pas à un inconnu. De même pour nous, nos prières doivent être remplies de la parole de Dieu, de la Bible, car c'est par elle que Dieu a choisi de se révéler. C'est par elle qu'il nous parle. On ne s'adresse pas à un inconnu. Nous pouvons y puiser toutes les ressources pour le connaître, connaître ses promesses et connaître sa volonté. Josaphat commence par rappeler à Dieu qui il est, donc pas Josaphat, qui Dieu est, et ce qu'il a fait pour Israël, le Dieu de nos ancêtres. Nous non plus, nous ne sommes pas des inconnus face à toi, Dieu. Le souverain sur toutes les nations, nul ne peut te résister. C'est toi qui as chassé tous les habitants. Je suis sûr qu'une grande part de cette prière ne visait pas vraiment juste à rappeler à Dieu ce qu'il avait fait et qui il était. Il le savait. Mais à se le rappeler à lui-même. À rappeler au peuple, le Dieu à qui on s'adresse, voilà qui il est. Dieu avait déjà prouvé qu'il était intervenu en leur faveur. Ils avaient des choses, des promesses réalisées, leur histoire, voire l'action de Dieu, de qui il était. Et parfois, nous aussi, on a besoin de ce rappel. Il est si facile d'oublier que nous adorons le Dieu de l'univers, le Dieu qui prononce simplement une parole et le monde apparaît, faisant survenir de l'invisible quelque chose de visible. Tout est à sa disposition. Et en parcourant les Écritures, nous pouvons voir comment Dieu a agi dans la vie de son peuple au fil des siècles. Mais nous pouvons aussi regarder en arrière, dans nos vies, et voir comment Dieu a agi, comment il est intervenu, répondant à nos cris, accourant à notre secours, en nous consolant dans la douleur, et parfois simplement présent à nos côtés. Ensuite, Josaphat souligne que c'est la réputation même de Dieu qui est en jeu. À deux reprises, il fait allusion au temple, au sanctuaire, qui porte le nom de Dieu. Et en substance, il dit, « Dieu, s'ils nous battent, s'ils nous envahissent, cela te fera paraître impuissant, toi aussi. » Alors sa prière peut sembler peu conventionnelle et pas forcément un modèle quand on interpelle Dieu. On a l'impression qu'il accuse presque Dieu de dire « Mais c'est ta faute, pourquoi tu nous as fait venir ici ?» Et pourtant, ce que le roi souligne, c'est que leur droit sur ce territoire de Juda ne repose pas sur les exploits et les hauts faits de leur peuple. La seule raison pourquoi ils occupent ce territoire, c'est que Dieu a fait une promesse à leur ancêtre Abraham. Et c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui les a sortis d'Égypte. C'est Dieu qui est resté avec eux pendant 40 ans dans le désert. C'est eux qui leur a livré la première ville, Jéricho, sans qu'ils aient à combattre. C'est eux, Dieu, qui leur a donné le pays. Et c'est ça que Josaphat souligne. On le remarque dans ce verset 7. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et à qui tu as donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait ?» Ça fait écho à un autre verset et à d'autres versets. J'en ai juste choisi un dans la lettre de Jacques, donc on va complètement vers la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, verset 23, je vais le lire, Jacques dit « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. » Il parle d'Abraham. « Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. » Josaphat fait appel à la foi d'Abraham qui fait sienne. La confiance en Dieu. Il ne présumait pas que Dieu le sauverait du désastre, mais plutôt qu'il le sauverait au milieu du désastre. Il dit « Si un malheur s'abat sur nous, il sous-entend qu'il ferait confiance à Dieu dans les épreuves, même si le pire arrivait. » Il continuerait à crier vers lui, à lui faire confiance, avec l'assurance qu'il les délivrerait. Et en fait, cet extrait de sa prière, c'est simplement la reprise de la dédicace du temple par Salomon. Salomon qui prie à Dieu, Dieu lui répond. Ce n'est pas juste une idée que Josaphat a eue. C'est basé sur des choses concrètes, des promesses réalisées. Est-ce que ce n'est pas ça, la définition de la foi? Une confiance absolue dans les promesses que Dieu a faites, quelle que soit la situation où nous nous trouvons, parce qu'il les tient toujours. Christ est venu accomplir la promesse ultime de Dieu. Toutes les attentes et les aspirations qu'on trouve dans l'Ancien Testament se trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ et son œuvre. Le salut que Dieu avait promis à Adam et Ève dès le commencement dans le jardin d'Éden s'accomplit à la croix. À la croix, Jésus crie « Tout est accompli ». La promesse d'où découle toutes les autres promesses est accomplie. Jésus est venu résoudre le problème ultime du péché. La situation impossible au-dessus de toutes les situations impossibles. Il est venu régler le problème du péché et rétablir une relation entre sa création, l'humanité, et lui-même. Cela a des implications considérables pour la terre, pour chacun d'entre nous, de tous les temps. Une autre citation d'Abraham et de la foi nous vient de Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 4, les versets 22 à 25. Et en parlant d'Abraham, il nous dit « C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole « Dieu a porté sa foi à son crédit » a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, ni pour seulement Josaphat. Elle nous concerne, nous aussi. Car la foi sera portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes. Il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Dieu nous a donné dans les Écritures des promesses extraordinaires que nous pouvons lui rappeler et nous rappeler en lui redisant tout ce qu'il nous a promis, en modelant notre intelligence et nos émotions par rapport à ses promesses et par rapport à sa volonté. En voici juste quatre parmi la multitude qu'on peut trouver dans la Bible. La première, c'est qu'il ne nous délaissera jamais et ne nous abandonnera jamais. Un extrait d'un message à venir sur Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours. » Je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes. Il nous promet qu'il pourvoira toujours à nos besoins. Philippiens, chapitre 4, les versets 19 et 20. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Il nous promet que rien ne pourra nous séparer de son amour. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une dernière. Toutes choses concourent à notre bien. Même le mal qui peut nous toucher, Dieu le transforme en bien. Et la Bible est remplie d'histoires, dont le point culminant est Jésus-Christ, qui lui a subi le plus grand mal de toute l'humanité, de toute l'histoire. Et Dieu l'a transformé en bien pour nous. Jérémie 29, dans l'Ancien Testament, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Voilà certaines des promesses sur lesquelles on peut s'attacher, nous rappeler. Pas juste dans les situations impossibles, à chaque moment de notre vie. On arrive au dernier verset de ce passage ce matin, le verset 12. Josaphat conclut sa prière avec cette phrase. Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femme et enfant compris, se tenait debout devant l'Éternel. Nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Et pour moi, cette phrase, c'est le cœur de la prière de Josaphat. C'est une déclaration d'une grande vulnérabilité. Le roi de Juda, devant tous ses sujets, admet qu'il n'a pas de réponse. Trop souvent, nous ne voulons pas reconnaître qu'on ne peut rien faire. Nous pensons que si nous travaillons davantage, si nous faisons plus d'efforts, ou si nous continuons à chercher des solutions, nous finirons par nous en sortir. Mais si au lieu de cela, nous étions plus disposés à admettre notre incapacité et simplement dire « je n'ai pas de réponse », alors je fixe mes regards sur toi, mon Dieu, pour que tu me conduises. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve de foi et de dépendance envers Dieu, ce qui est exactement ce qu'il désire de nous. Il ne cherche pas des disciples qui comptent sur eux-mêmes. En fait, ça n'a pas de sens. Et souvent, c'est lorsqu'on réalise notre impuissance face à ces situations impossibles que nous sommes conduits vers Dieu. Souvent, c'est au travers de ce genre de situation qui nous arrache à notre vie pour faire de nous ses enfants. Mais en fait, nous sommes par définition des êtres fragiles et impuissants. C'est juste qu'on ne le réalise pas. Et souvent, c'est des circonstances difficiles qui nous le révèlent. C'est un peu comme entrer dans une pièce où il fait noir, où on ne voit rien. On allume la lumière et là, on voit des meubles, une table, peut-être une corbeille de fruits, une bibliothèque avec des livres. Est-ce que c'est la lumière qui a fait apparaître toutes ces choses-là? Non, ils y étaient déjà. Simplement, on ne les voyait pas. En reconnaissant mon impuissance face à une situation, face à notre vie, simplement tout court, en admettant simplement que je n'ai ni ressources, ni sagesse, ni espérance sans Dieu, alors, et que la seule chose que je peux faire, c'est fixer mes regards sur lui. Notre rôle, si on peut appeler ça, c'est d'exposer à Dieu nos besoins, notre situation, de les déposer à ses pieds, de déposer notre lutte à ses pieds. Ses voix, sa sagesse sont tellement plus élevées que les nôtres. Lui sait ce qu'il y a de meilleur. On n'a pas besoin de savoir d'où va venir le secours, voire même si ça va répondre à ce que moi j'aimerais. Simplement et sûrement, nous savons et nous pouvons fonder notre foi là-dessus que le secours viendra de lui, de Dieu. Et si nous continuons à regarder simplement nos problèmes plutôt qu'à la présence de Dieu au milieu de nos problèmes, alors on succombe à la peur. Ne te concentre pas sur les circonstances qui t'entourent, sur le vent et les vagues qui t'assaillent, car ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Rien ne lui est trop difficile. Le roi et le peuple levaient les yeux vers Dieu, et nous, nous levons les yeux vers Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous sur la croix. Christ était Dieu, tout-puissant. Et il s'est abaissé et s'est dépouillé de sa condition divine pour prendre la condition d'un serviteur, se rendant semblable à nous, faible et impuissant, pour que nous puissions garder les yeux fixés sur lui, celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection, une paraphrase d'Hébreux 12 que nous avons vu dans les groupes de maison cette semaine. Pour Josaphat, la réponse de Dieu arrive immédiatement par une promesse. Un prêtre, un lévite, reçoit une révélation de Dieu et leur donne la réponse tout de suite. « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Et cette promesse suffit à Josaphat et au peuple. Aussitôt, ils se prosternent et adorent et louent Dieu. Pour nous, la promesse, elle est déjà accomplie. C'est Christ qui a combattu à la croix et vaincu la mort et le péché. Et nous sommes au bénéfice de cette promesse aujourd'hui. Est-ce que vous avez saisi cette promesse? Si vous avez fait votre cette promesse, est-ce que c'est sur elle que vous fondez toute votre vie, chaque jour, chaque moment, ou est-ce que c'est seulement dans les situations impossibles? Quand nous venons à Dieu avec nos épreuves, est-ce que nous venons avec les réponses que nous souhaitons recevoir de la part de Dieu? Ou est-ce que nous soumettons notre volonté à la sienne, quelle que soit la façon dont il nous répond? Et à quel moment? Est-ce que nous attendons d'être délivrés pour l'adorer? Ou est-ce que sur les promesses que nous avons déjà, quelle que soit la circonstance, on peut l'adorer et le louer? Josaphat a adoré Dieu avant la bataille. Il a adoré Dieu en allant voir la réalisation de sa promesse. Simplement sur la base de la présence de Dieu et de son engagement à combattre pour eux. Nous qui connaissons Christ, nous avons cette même assurance. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Je vais prier. Seigneur, tu nous donnes la Bible, ta parole. C'est le moyen que tu as choisi pour te révéler à nous. Mais Seigneur, on veut se plonger nos regards dedans pour savoir qui tu es, pour connaître les promesses que tu nous fais, pour avoir une vision de qui tu es vraiment et pas un petit Dieu qu'on mettrait dans notre poche, qu'on limiterait à notre connaissance et à notre intelligence. Seigneur, je te prie que ceux qui n'ont pas placé cette confiance en toi soient touchés et veulent te connaître parce que c'est toi qui t'es approché de nous. Je te prie aussi pour ceux d'entre nous qui pouvons dire nous sommes tes enfants, que nos vies tout entières soient trempées dans l'évangile, la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de nos vies difficiles ou joyeuses, ou simplement la routine du quotidien, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, à part fixer les regards sur toi. Merci Seigneur, parce que tu fais des promesses et tu les tiens. Amen.